Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine ton barrio.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakh hayy.
Cuisine quartier.
Cuisine nel tuo quartiere.
Et matbakhna.
Cuisine ton quartier.
Ici Annie Roy de Atsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre.
Pour moi, quand j'arrive dans un parc, je cherche tous les éléments naturels, donc l'air, la terre, et il me faut de l'eau. Donc je vais chercher de l'eau. Donc s'il y a une pièce d'eau dans un parc, ça, je vais être tout prêt.
Bonjour, je suis Marjorie Villefranche, directrice de la Maison d'Haïti. Bienvenue à Cuisine ton quartier dans Saint-Michel. Mon parcours à moi... Quand je suis arrivée au Canada, donc au Québec, j'avais 12 ans. C'était en 1964. J'avais 12 ans et en fait, en Haïti, c'était la période de la dictature très, très féroce, donc de Duvalier. Et mes parents avaient décidé que ce n'était pas possible. Mon frère et moi, on ne pouvait pas rester là. Et donc, ils nous avaient envoyés au Canada. Et donc, je suis arrivée toute seule à 12 ans avec un petit papier en main qui était le nom de la dame qui devait venir me recueillir. Et voilà comment je suis arrivée au Canada. Et donc, j'ai été pensionnaire pendant plusieurs années. À l'époque, c'était des religieuses, donc j'étais dans un couvent religieux pendant plusieurs années. Et mes parents sont arrivés, enfin, je dis plusieurs années, pendant 4 ans, parce que mes parents sont arrivés 4 ans plus tard. Ce qui m'a le plus frappée, c'était le vivre à l'intérieur, parce qu'en fait, venant d'un pays chaud, venant d'un pays où on vivait dehors, on n'entrait que pour dormir dans la maison, même pas pour manger, parce qu'on mangeait dehors, tout se faisait dehors. Et donc, de vivre à l'intérieur et de vivre enfermé, j'ai vécu pendant plusieurs années avec une espèce de terreur de l'enfermement. J'avais toujours l'impression d'être enfermée. Donc j'avais toujours envie de sortir tout le temps. C'est ce qui m'a le plus frappée. C'est de m'habituer à vivre à l'intérieur. Mon parcours et comment j'ai rencontré la Maison d'Haïti, en fait, comme je suis arrivée ici à 12 ans, qu'est-ce qu'on connaît de son pays à 12 ans? Des choses d'enfants, quoi. Des histoires d'enfants et une compréhension très, très petite du pays. Et donc, j'ai vécu pendant un certain nombre d'années avec l'impression qu'il me manquait quelque chose. C'est comme un jeu de patience dans lequel il manque un morceau. Puis là, tu te dis, mais j'ai tout rempli les cases, mais il me manque quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai rencontré donc une dame qui est devenue mon mentor et qui m'a dit, mais pourquoi tu ne viens pas à la Maison d'Haïti? Voilà comment je suis arrivée à la fin de l'adolescence à la Maison d'Haïti. Ce que je connais d'Haïti, c'est la Maison d'Haïti qui m'a aidée à connaître ce que je sais d'Haïti. Et cette sensibilité que j'ai pour la communauté haïtienne, c'était quelque chose qui était en moi, mais que je ne comprenais pas. Et c'est vraiment à la Maison d'Haïti que j'ai compris tout ça. Bon, après ça, bien sûr, je suis retournée en Haïti, j'y ai vécu. Mais c'est vraiment mon contact et mon apprentissage de cette partie en moi qui me manquait, qui était la partie haïtienne en moi. On avait commencé par mettre en place un programme. Quelques années après, on était tous des jeunes parents dans la vingtaine et on se disait comment transmettre la culture haïtienne à nos enfants. Parce que les enfants, ils sont élevés au Québec, donc ils vont bien connaître la culture québécoise, mais il y a quand même une partie d'eux-mêmes qu'il faut leur transmettre. Et on a voulu mettre en place un programme donc, pour leur apprendre les chants, les danses, toutes les histoires haïtiennes pour les enfants, etc. etc. Et c'est comme ça que moi, j'ai appris la culture haïtienne. En mettant en place donc, tout ce programme pour apprendre à mes enfants, j'apprenais en même temps. Et donc, voilà comment j'ai appris et voilà comment je suis... devenue une personne plus équilibrée, c'est-à-dire donc une partie de moi québécoise, bien sûr, puisque je suis arrivée ici, j'avais 12 ans, mais une partie de moi bien haïtienne aussi, parce que ça fait partie de moi. La Maison d'Haïti, donc, elle l'a depuis 1972, donc ce sont des jeunes étudiants haïtiens qui l'avaient mis en place à l'époque et qui avaient eu la magnifique idée de l'appeler Maison d'Haïti, parce que je trouve que ça va tellement bien. C'est un nom qui ne meurt jamais, finalement. Au départ, c'était pour les nouveaux arrivants qui arrivaient d'Haïti, mais installé dans le quartier Saint-Michel depuis 1983, c'est clair qu'on est devenu la Maison d'Haïti de tous les nouveaux arrivants qui habitent le quartier. Actuellement, on donne des services à des gens qui viennent de 37 pays différents dernièrement. Alors, on a commencé à compter, on a fait nos calculs, c'était 37 pays différents. C'est vraiment le soutien, l'accueil, l'intégration et l'installation des nouveaux arrivants. Comment tu arrives, comment faire tes papiers, comment trouver un logement, comment inscrire tes enfants à l'école, comment chercher un travail, comment faire l'équivalent de tes diplômes, des choses comme ça. Et aussi, comment vivre dans ce pays, parce que c'est un pays qui est nouveau, qui est différent, c'est quoi les valeurs, comment est-ce qu'on vit ici. On a même des programmes pour les parents. tu élevais ton enfant de telle manière, mais ici, qu'est-ce qu'on attend de toi comme parent? Quelles sont les valeurs qui sont prônées ici? Pour les femmes, c'est la même chose. Quelles sont les valeurs qui sont prônées? Quelles sont les valeurs d'égalité et d'équité qui sont prônées ici? Qu'est-ce qu'on ne doit plus accepter? Qu'est-ce qu'on peut accepter? Il y a tout ça. Donc, c'est vraiment l'apprentissage. Et surtout l'apprentissage par l'exemple, dans le sens qu'on est accueilli ici comme dans une maison. Parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans une maison quand on arrive ici. On est chez soi. Et on regarde comment les choses se passent. On ne fait pas de leçons. On outille les gens pour qu'ils soient capables de prendre leurs propres décisions. On ne fait de leçons à personne, mais on leur offre toutes les possibilités de comprendre et de s'outiller pour comprendre ce qui se passe et comment on vit, comment un citoyen vit dans cette société québécoise. Ma six coordinations, donc on a une coordination éducation, ça part de la francisation jusqu'à l'éducation des enfants, l'aide aux devoirs, etc. On a une autre coordination qui est la coordination femmes, donc on a plus de 9 programmes pour les femmes, par les femmes et pour les femmes. On a la coordination jeunesse, on a la coordination famille pour soutenir les familles et on a la coordination intégration, bien sûr, pour l'intégration des nouveaux arrivants et notre centre des arts qui est notre 6e coordination. En fait, effectivement, en 2017, il y a une vague de demandeurs d'asile qui sont arrivés par le chemin Roxham. Et c'est paradoxal parce qu'au départ, nous, on a tout de suite été là pour accueillir les demandeurs d'asile. On a beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait des Haïtiens, mais il n'y avait pas seulement des Haïtiens. Il y avait des gens qui venaient de différents pays qui arrivaient par le chemin Roxham. Bien sûr, les Haïtiens étaient nombreux. Ils se sont tournés vers nous. Mais ce n'est pas seulement les Haïtiens qui se sont tournés vers nous parce qu'on a accueilli toutes sortes de monde. Par rapport au mandat qu'on a et les défis de l'immigration actuellement, je crois que ça continue à être la reconnaissance de la formation des gens. On est très exigeant quand on donne un visa d'immigrant à un immigrant. On lui demande d'avoir énormément de formation pour lui accorder le visa. Et quand il arrive ici, on ne lui reconnaît pas ses formations. Donc moi, je pense que c'est ce défi. Et c'est un défi qui n'appartient pas uniquement à l'immigrant. C'est un défi québécois. Parce qu'il faut être capable de passer par-dessus les corporations de métiers et d'être capable de reconnaître la formation des gens qui arrivent ici. C'est du gaspillage, je trouve, de ne pas reconnaître la formation des immigrants qui arrivent ici. Je me dis chaque fois, on manque de médecins, on manque d'infirmières, on manque. Mais il y en a plein. Il y en a plein qui sont là, qui ont ce métier en main et qui ne l'utilisent pas. Donc je me dis, c'est un défi qu'on doit relever. On doit être capable de reconnaître la formation des gens et reconnaître leur diplôme. Tout le mouvement antiraciste, le mouvement Black Lives Matter. Je pense que ce qui est intéressant, c'est le fait d'avoir vu un lynchage en direct. Parce qu'on parle, la communauté noire le sait, on est tout à fait au courant de ça. Tout le monde, toutes les personnes de la communauté noire sont habituées à ça. Mais de l'avoir vu en direct pendant 8 minutes, je pense que c'est ça qui a soulevé vraiment l'indignation des personnes. Et surtout de se dire... C'est pas possible quand on connaît l'histoire du mouvement noir en Amérique du Nord, l'histoire de tout ce mouvement de libération qui a été très ardu depuis les années 30, tout ce mouvement donc qui a été très difficile, qui s'est souvent terminé par des assassinats, soyons clairs, mais tout ce mouvement de lutte et de se dire que ça se passe encore et les personnes pensent qu'ils peuvent impunément encore faire ça, je pense que vraiment ça a soulevé l'indignation. Surtout des jeunes et qui se sont dit c'est pas possible, c'est quelque chose qu'on ne tolérera plus. Ce que s'est passé aux États-Unis s'est passé ici aussi parce qu'on ne veut pas admettre qu'il y a eu de l'esclavage ici. Il y a eu de l'esclavage à plus petite échelle bien sûr, mais il y a eu de l'esclavage aussi ici. Et si on regarde la manière dont on a traité les Noirs et dans d'autres provinces où c'était carrément l'apartheid à un certain moment donné, les gens ne veulent pas connaître l'histoire des Noirs. Mais je pense que nous, on est là à essayer de raconter l'histoire des Noirs depuis 20 ans, 25 ans. Mais c'est comme si les gens ne veulent pas entendre cette histoire, parce que ce n'est pas une histoire glorieuse, et pourtant c'est une histoire extrêmement importante pour la communauté noire, et je pense qu'il faut laisser cette communauté s'exprimer, et il faut permettre le dialogue, parce que si on ne veut pas connaître, il n'y aura jamais de dialogue. Il est déjà là, le Québec de demain. Moi, je trouve qu'il est là déjà, on le voit. Les enfants sont nés ici, moi, mes enfants sont nés ici, mes petits-enfants sont nés ici. Bien sûr qu'ils continuent à parler créole et c'est la richesse du Québec. C'est même plus la richesse d'Haïti, ça. C'est la richesse du Québec. Donc, le Québec, maintenant, c'est les Québécois de souche, mais c'est aussi les Québécois qui sont arrivés ici depuis deux générations, depuis une génération, qui ajoutent aussi des couches culturelles différentes et qui enrichissent le Québec. Un jour, je me souviens, on avait demandé à ma petite fille, « Oh, avec les jolis petits cheveux frisés que tu as, d'où viens-tu ?» Et elle avait, à l'époque, elle avait 5 ans, je n'ai pas répondu à sa place, je me suis dit, je vais voir ce qu'elle va répondre, parce que bon, elle est née ici, qu'est-ce qu'on lui demande, d'où viens-tu ? Elle me regarde, mais je lui dis, mais réponds, elle me dit, mais de Sainte-Justine. Et voilà, donc voilà, je veux dire, on est déjà le Québec de maintenant, donc voilà. Je dis souvent, si dans une année, on a pu aider à mieux vivre une personne, deux personnes, trois personnes, j'ai fait mon année. J'ai gagné mon année. Je peux vous raconter l'histoire de une étudiante qui faisait sa maîtrise et qui est venue me voir parce qu'elle voulait, justement, elle faisait sa maîtrise sur les communautés et tout ça. Et donc, elle est venue me poser des questions. Et là, en me posant des questions, elle me regarde, elle me dit, tu ne me reconnais pas. Je dis, non, parce que je vois tellement de monde. Et si maintenant, tu dois avoir, je ne sais pas, probablement 21, 22 ans. Si je t'ai connue quand tu étais petite, je ne peux pas te reconnaître. Je ne sais pas qui tu es. Et là, elle me dit, je suis la petite fille qui venait avec Madame Untel. Et donc, c'était la petite fille d'une dame qui venait apprendre à lire et à écrire à la maison d'Haïti. Et comme c'est elle qui gardait ses petits-enfants, donc elle venait avec elle. Donc voilà cette petite fille qui accompagnait sa grand-mère pour apprendre à lire et à écrire. Et elle-même revient me voir des années plus tard. Elle est en train de faire sa maîtrise. Bon, pour moi, c'est comme waouh. Voilà, c'est le trajet d'une famille magnifique. Le quartier a changé énormément. En 83, quand nous sommes arrivés, n'oubliez pas, il y avait la carrière qui fonctionnait encore. C'était le site d'enfouissage à ciel ouvert de toute la ville de Montréal. Ce qui veut dire que tous les déchets de la ville de Montréal étaient donc jetés dans la carrière. Quand nous, on est arrivés, littéralement, j'avais l'impression d'arriver dans un quartier qu'on avait abandonné. Et l'impression que j'avais, c'était, oh, de toute façon, comme des immigrants et puis des Haïtiens qui habitent là, c'est pas grave si on ne s'en occupe pas. C'est l'impression que j'ai eue vraiment quand on est arrivé dans le quartier, quand on s'est installé là. Et en fait, ce quartier s'est transformé par la force des gens qui habitent le quartier et par la force des organisations communautaires qui accompagnent les gens du quartier. Vraiment. Donc je me dis, si ce quartier est devenu comme il est maintenant, parce que quand on voit le quartier qu'on a réussi à faire fermer cette carrière et que maintenant c'est devenu le deuxième plus grand parc de Montréal, qui est le parc Frédéric Bac, et qu'on est en train de faire d'autres projets, qu'il y a eu Tohu qui s'est installé là, le Cirque du Soleil, et toutes sortes de choses qui se sont installées dans ce quartier, c'est vraiment parce que ce quartier s'est pris en main, et c'est justement ça la force du citoyen. Quand on l'outille, il est capable de prendre ses décisions et savoir ce qui est bon pour lui. Moi, je pense que c'est ça la force du quartier Saint-Michel. Et pourquoi la table de concertation de Saint-Michel est si puissante? C'est parce que justement, elle a su, dès le départ, intégrer les citoyens et travailler pour le bien-être des citoyens, avec les citoyens. S'impliquer à la Maison d'Haïti, c'est facile parce qu'on a plein de programmes, comme je vous ai dit. Et donc, les programmes ont besoin d'aide, ont besoin d'un coup de main. Si je vous dis, par exemple, que bon, quand on fait les activités du réseau de jeunes parents, on appelle ça un espace parent, on a besoin d'aide parce qu'on reçoit énormément de gens, énormément d'enfants, énormément de parents. Et donc, oui, on a besoin d'aide au Centre des Arts tout le temps parce qu'on fait des spectacles. Donc, on a besoin des gens pour nous donner des coups de main, pour installer la salle, l'enlever et tout ça, aider le technicien. Donc, on a besoin d'aide à tous les niveaux. Pour venir à la Maison d'Haïti, oui, on est proche du métro Saint-Michel. Donc, si on prend la ligne bleue, et qu'on descend au métro Saint-Michel, on prend le bus 67, et c'est à une dizaine de stations donc du métro, donc c'est vraiment pas très loin. Donc on est sur la rue Émile Journeau, au coin du boulevard Saint-Michel. On vous attend. Ben, merci de votre écoute. Et si j'avais un souhait, oui, j'ai un souhait, c'est vraiment justement d'être à l'écoute. Comme ça, vous m'avez écouté aujourd'hui. Mais je pense que c'est le souhait le plus important que j'ai à faire jusqu'à présent, c'est de dire d'être capable d'écouter l'autre et de se mettre à la place de l'autre souvent. Parce que si on n'a pas cette empathie, on n'y arrivera pas. Et voilà, donc c'est le souhait que je fais, c'est d'être à l'écoute.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.